Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « L'identification de Christ dans tous les âges » prêché par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Je considère vraiment cela comme un grand privilège d'être ici ce soir. C'est la première fois que je viens ici dans cette belle ville de Birmingham. Oh, j'ai voulu venir plusieurs fois, mais il semble juste que ça fonctionnait alentour et le Seigneur a ses propres temps fixés pour les choses. C'est ainsi qu'il a arrangé cela. Nous sommes reconnaissants pour ce temps et pour ces excellents parraineurs. Et maintenant, ce soir, c'est un peu... nous avons toujours une sorte de soirée pour faire connaissance. Et vous savez, quand vous êtes dans un bâtiment comme celui-ci, où il y a... qui n'a pas été utilisé pour des services religieux, je ne pense pas, j'ai cru comprendre que c'est un bâtiment militaire. Il est probablement utilisé pour faire des exercices, jouer à des jeux et ainsi de suite. Ce n'est pas comme de venir dans une église. Là où vous, je crois qu'à l'église, vous avez l'Esprit de Dieu qui est là et on ressent simplement comme un sentiment sacré. Mais quand nous venons dans un endroit où il y a des divertissements et parfois même des comportements déplacés, il semble que c'est difficile de démarrer avant un certain temps, avant qu'on ait fait connaissance. Et puis, comme nous sommes tous inconnus les uns des autres, ça rend un peu, eh bien, on regarde et on se demande. Mais si nous essayons de nous débarrasser de ça le plus vite possible, et n'oubliez pas que nous sommes ici pour servir le Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour faire ce que nous pouvons, tout ce que nous pouvons pour l'avancement de son royaume. Et je déploie mes efforts, et je ne peux pas le faire seul. Il faudra votre aide avec mon aide et l'aide de Dieu. Et avec lui, nous pourrons voir la gloire de Dieu descendre et nous visiter. Et c'est ce que nous voulons ardemment. C'est pour cela que nous sommes ici, pour une visitation de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux et nous n'avons pas de très grande foule. Nous ne resterons pas longtemps. Et autre chose, mon message est principalement prêché aux gens du plein évangile. C'est sur ces bases, bien que tout le monde vienne. Nous prions pour les malades. Et nous ne prétendons pas être un guérisseur ou quelqu'un qui peut guérir quelqu'un. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul guérisseur, c'est Dieu. Mais nous croyons qu'il a ordonné l'homme pour qu'il prie pour les malades, et nous faisons cela. Nous prions pour les malades, et le Seigneur a été miséricordieux envers nous de répondre à nos prières tellement de fois. Et nous, partout dans le monde, nous avons vu eh bien, des milliers de gens infirmes, affligés, aveugles, boiteux, paralysés, invalides, à être guéris. Et nous croyons simplement qu'il a été blessé pour nos transgressions, par ses meurtrissures, nous avons été guéris et nous croyons que c'est l'avantage, c'est le privilège des croyants. Or, ce n'est pas pour les incroyants. Les gens disent, eh bien, je ne crois pas que ça puisse arriver, alors ça ne vous arrivera jamais. Soyez juste certain de ça, ça ne vous arrivera jamais. Mais ça va arriver à ceux qui croient, car c'est seulement pour les croyants. Or, ça ne fait pas de nous un guérisseur, pas plus que la prédication du salut ne fait de nous un sauveur. Nous savons qu'il y a un seul guérisseur et un seul sauveur, et c'est la même personne, Jésus-Christ. Nous sommes ici pour le glorifier auprès des gens. Maintenant, un réveil n'est pas exactement d'ajouter de nouveaux membres à l'Église. Un réveil, c'est de raviver ce que vous avez déjà. Et quelquefois, je me suis demandé à quoi servait un réveil. Cela peut paraître un peu bizarre qu'un inconnu pour vous dise ceci, mais j'étais au bord du lac un jour, là, au lac Michigan. Je regardais les vagues comme elles venaient et repartaient et elles sautaient. Oh, il y avait des vents violents qui soufflaient et les vagues s'élançaient dans les airs, se balançaient de haut en bas, se roulaient et revenaient et roulaient encore. J'ai pensé, oh là là, quel réveil! Mais vous savez, il n'y a pas plus d'eau dans ce lac que lorsqu'il est parfaitement normal et calme. C'est vrai, il y a la même quantité d'eau, vous voyez? Alors, je me demandais pourquoi ce lac est-il tout agité? C'est tout comme lorsque nous sommes stimulés dans un réveil. Nous faisons des remous. Vous savez ce que ça fait toujours au lac, par contre? Ça le nettoie, ça envoie toutes les ordures sur le rivage. C'est pour ça que nous devons avoir un réveil. C'est pour éloigner de nous tous les doutes et ces choses, afin que nous puissions voir plus clairement ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que nous anticipons cette fois-ci. C'est un réveil parmi les gens. Or, celui qui me parraine, frère Urshan, ses frères ici, est probablement quelques-uns de ceux qui sont assis là-bas. Bon, ce sont des ministres de Dieu, tout comme moi et tout autre ministre. Et le Jésus a dit une fois, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a pris un filet et est allé au lac. Et quand il a jeté le filet, il l'a retiré et dedans, il y en avait toutes sortes. Le filet d'Évangile en attrape de toutes sortes. Maintenant, toutes sortes de poissons. Vous voyez, il y avait probablement, disons, des chiens d'eau. Certains étaient des serpents, des araignées, des tortues, et ainsi de suite. Et certains étaient de véritables poissons. Ainsi, nous ne savons pas ce que nous attrapons dans le filet et on ne fait que pêcher à la senne. Et maintenant, je suis venu. Deux sennes vont ramasser davantage qu'une senne. Et je viens mettre mon filet. C'est une senne. Nous appelons ça plus haut dans le nord une senne. Et je viens pour joindre mon filet à leur filet, à vos filets. Et jetons-les très loin, aussi loin que possible. Et mettons nos filets ensemble, nos cœurs et nos efforts, et retirons-les pour voir s'il y a du poisson que le maître pourrait utiliser. Et c'est lui qui juge cela. Nous ne savons pas, ils nous semblent tous pareils, ils sont simplement pris dans le filet. Mais Dieu sait qui ils sont et il les connaît dès le commencement. Nous ne sommes donc que des pêcheurs à la Seine, nous ne sommes pas ceux qui jugent qu'il y en ait un et qu'il n'en ait pas un. Nous ne faisons que pêcher à la Seine et je suis ici pour vous aider. Et maintenant, cette semaine, priez, téléphonez, appelez quelqu'un et invitez-le à l'église, au bâtiment militaire ici. Nous n'avons que peu de temps, nerveux. Ça rend les gens nerveux quand on vient juste d'apprendre à se connaître et que les gens se sentent bien et qu'alors vous devez partir ailleurs. Je me suis souvent demandé quelquefois si je ne pourrais pas un séjour avoir une tente et venir près d'une grande ville comme celle-ci et l'installer pour que nous puissions rester plusieurs semaines et avoir une réunion ministérielle d'un matin et rencontrer tous les ministres et discuter de la chose. Et j'ai confiance que le Seigneur va bénir nos efforts cette semaine. J'ai confiance qu'il ne restera pas un seul lit ou un seul fauteuil roulant, quoi que ce soit ici, ou une personne souffrant d'un problème cardiaque, de la tuberculose, du cancer, que le Seigneur Jésus n'aura pas guéri. Je vais prier. Je ne fais pas beaucoup de visites parce que, vous savez, ce genre de ministère, ce n'est pas que je n'aimerais pas faire de visites, mais c'est que je ne peux pas servir Dieu et l'homme en même temps. Je dois rester seul et prier. Je vais le faire pour vous. Et vous ferez l'autre part de vous réunir ensemble et de faire entrer les gens et tout ça et d'amener les gens malades et affligés et prier pour moi. Chacun, priez pour moi. C'est comme ça qu'on remportera la victoire. Maintenant, juste pour poser les fondations de ce que nous essayons de faire, premièrement, nous ne représentons aucune dénomination. Par contre, aucune dénomination, mais nous n'en représentons simplement aucune. Nous nous tenons. J'ai été ordonné un missionnaire baptiste, et puis j'ai renoncé à ma carte d'association pour la communion avec mes frères, juste pour ne pas être représenté dans aucun groupe. Je suis entré chez les pentecôtistes quand je suis allé prier pour les malades et qu'on m'avait donné la commission de le faire. Je suis venu parmi les pentecôtistes et je me rends compte, je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul groupe, mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de groupes là-bas, comme pour les baptistes, différents groupes. Alors j'ai vu qu'ils faisaient des chichis et qu'ils se disputaient avec les baptistes à propos de ceci, cela, et quoi encore, et je les ai laissés se disputer. Et j'essaierai de mettre les bras autour de chacun et de dire, nous sommes tous frères, servons simplement le Seigneur. Et le peu d'influence que je peux avoir, je ne le place pas sur une certaine dénomination, uniquement sur Christ. Et là, nous essayons de le servir ainsi. Tout le monde est invité, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Tant que vous vous comportez bien, que vous êtes en ordre, eh bien, vous êtes aussi bienvenu qu'on puisse l'être. Maintenant, une autre chose, c'est notre système pour prier pour les malades. Eh bien, chaque jour, Frère Barlow ou Terry ou Frère Sutman ou Billy Paul, habituellement, c'est Billy Paul. C'est son travail. Et s'il ne peut pas venir ici, ce sera un de ses autres hommes qui vont distribuer des cartes de prière à chaque jour. Ils font cela, ils se présentent, ils présentent les cartes de prière, une centaine d'entre elles. Ils les mélangent toutes directement devant vos yeux et ensuite, ils donnent les cartes aux gens, ceux qui en veulent une. Maintenant, chaque jour, ils font ça. Et ici, lorsque nous avons commencé, nous avons découvert qu'il fallait avoir des cartes de prière. Ce n'est pas une arène, vous savez, où on peut se pousser les uns les autres. C'est un « il faut que tout soit en ordre ». Et puis, nous avons trouvé que quelqu'un qui essayait de vendre des cartes de prière et qui garantissait que les gens allaient monter sur l'estrade. Et donc, ça, il fallait arrêter ça. Et puis, j'ai mis mon propre fils là-dessus parce que je savais qu'il n'en viendrait aucune. Puis, une pensée m'est venue, « Donnez-moi une telle carte de prière. À partir de quelle carte de prière allez-vous commencer à prier pour eux ce soir? » Et ensuite, je veux telle carte de prière. Et bien, pour s'assurer que ce garçon ne sait pas où va commencer cette ligne de prière, il mélange les cartes et ensuite il vous les donne. Il ne sait pas laquelle il vous donne. Il ne fait que vous donner une carte de prière. L'un pourrait avoir le numéro 1, l'autre avoir la 50, et ainsi de suite. Et puis, pour être encore plus sûr, je me présente un soir et personne, et je ne sais pas moi-même par où je vais commencer à appeler les cartes de prière. Je pourrais commencer à partir de 1, je pourrais commencer à partir de 25, je pourrais commencer à partir de 75 et de 100 et le faire à l'envers. Tous ceux qui ont déjà assisté à une réunion savent que nous le faisons de cette façon, simplement à l'endroit et à l'envers, n'importe où. Et ensuite, tous les jours, d'abord, nous descendons et distribuons tous les cartes de prière le premier jour. Ensuite, tous les nouveaux venus entrent, ils n'obtiennent pas de cartes de prière. C'est aidé, nous ne prions pas pour eux pendant la réunion, mais maintenant, nous les distribuons tous les jours pour que tous ceux qui veulent une carte de prière puissent en avoir une. Peut-être qu'un soir, nous les passerons, pas toutes, mais conservez vos cartes, nous arriverons avant de partir. C'est votre foi qui opère la guérison. Ce n'est pas votre prière. Notre prière va aider. Il n'y a aucun doute. On se réunit tous ensemble. On prie pour vous. Ça va aider. Et alors, le dimanche après-midi, si le Seigneur le veut, nous prierons pour chacun et nous prendrons leur carte de prière et nous prierons pour tous. Ou peut-être samedi soir, l'un d'eux, selon ce que les frères veulent que nous le fassions. Et maintenant, nous voulons dire ceci pour que vous compreniez. La raison pour laquelle j'ai repoussé cette ligne de prière pour rencontrer chaque personne, c'est parce que mon principe, mon objectif, c'est ceci. Que les gens vont recevoir Christ comme leur guérisseur sans que personne ne leur impose les mains. D'habitude, prenez un évangéliste. Il arrive dans la ville, eh bien, il est tout dans l'Église. Quand il part, parfois, l'Assemblée regarde leur pasteur et elle dit, « Eh bien, qu'en est-il de mon pasteur? Je veux que vous sachiez que votre pasteur est un homme saint et je veux que vous le respectiez et que vous sachiez que cet homme est tout aussi ordonné pour prier pour les malades que n'importe qui d'autre puisse l'être. » Et nous voulons que vous, et par d'ailleurs, notre objectif principal est que vous voyez la présence de Jésus-Christ et que vous sachiez qu'il est ici. Et puis, pendant que vous vous tenez dans sa présence, acceptez-le simplement comme votre sauveur et votre guérisseur. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez-le comme sauveur. Si vous êtes sauvé et pas guéri, alors acceptez-le comme votre guérisseur. Alors, personne ne peut dire, « Frère un tel m'a imposé les mains. » Non, vous avez posé les mains sur lui. Alors, c'est la chose principale. Maintenant, je veux que vous gardiez ça à l'esprit tout le temps. C'est vous qui posez le toucher. Et la Bible dit, c'est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Et maintenant, souvenez-vous de ceci, c'est vous qui le touchez. Pas le pasteur a le droit d'imposer les mains. Imposer, pas seulement le pasteur, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Seulement les croyants, n'importe qui impose les mains sur les malades a le droit de faire cela. C'est de vous identifier avec la personne dans la prière, tout comme vous imposez vos mains par la foi sur le Christ et que vous vous identifiez à votre sacrifice. N'oubliez pas maintenant qu'au fur et à mesure, que la semaine avance, et priez sincèrement. Là, je crois qu'on a fait le tour maintenant et ensuite, à chaque soir, nous essayons de sortir tôt, aussitôt que c'est possible de le faire. Là, nous commençons maintenant à 9h-25, selon ma montre. Et si le Seigneur le veut, nous voulons être sortis tous les soirs à 9h30 ou peut-être avant, pour que vous puissiez avoir amplement de temps de rentrer chez vous et de revenir. Maintenant, si on n'a pas prié pour vous ou que vous ne l'avez pas saisi le premier soir, mon ministère peut vous paraître un peu étrange, mais si c'est étrange, n'allez pas tout simplement le mettre de côté. Asseyez-vous et réfléchissez-y. Prenez la Bible. Maintenant, je crois que Dieu peut faire des choses qu'il n'a jamais écrites ici dans la Bible, mais je veux juste s'il veut juste rester fidèle à ce qu'il a écrit ici, je serai satisfait par ça, parce que nous vivons à l'époque de toutes sortes de choses étranges, des ismes, qui ne sont pas scripturaires, mais vous savez, au temps de Noé, Jésus a dit comme il en était au temps de Noé, vous savez, les gens construisaient peut-être des bateaux à cette époque, qu'ils étaient construits par Dieu ou non. Cependant, ils n'ont pas flotté quand le temps est venu de flotter. Alors, j'aime que le message soit construit par Dieu avec les Écritures, un message scripturaire et juste là, avec ça, chaque chose avec l'Écriture. C'est alors ainsi dit le Seigneur. Et ça doit tenir parce que ce n'est pas ma parole qui est en question, c'est sa parole qui est en question. Prenez-le à partir des Écritures. Et nous sommes dans un changement de dispensation. Nous sommes en train de changer. Et chaque changement, tout comme dans la construction d'un bâtiment, on arrive au coin. Il faut effectuer ce virage. C'est étrange. Tout le monde veut aller tout droit d'un bout à l'autre. Vous n'auriez alors qu'un seul grand mur. Mais nous construisons un bâtiment. Et quand on arrive au coin, il faut changer ces coins. Comme le frère Don Price, si bien, il l'a si bien dit il n'y a pas si longtemps, c'est lors de ces changements, c'est là que le trouble survient. C'est là que c'est difficile avec ces coins de prendre, de couper ce coin et de le faire comme il faut. Maintenant, juste avant de lire la parole, chaque soir, Frère Borders est le responsable sur le champ de mission et il parle aussi sur l'estrade. Et le Dr. Leavale est ici quelque part. Je suppose qu'il est arrivé ici. Il m'a rencontré dans le Kentucky, conduisant à 30 000 à l'heure, en arrivant dans une autre Ford. Alors, en descendant, je l'ai rencontré. C'est lui, l'homme des relations publiques. Il va parler, je suppose, quelque part dans la réunion, un peu à chaque jour. Alors, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, eh bien, demandez à Frère Vail. Il va pouvoir vous aider avec ces questions. Très bien. Alors que nous... Avant de lire la parole, j'ai pour habitude que nous nous levions quand nous lisons la parole de Dieu. Nous nous levons quand il joue de Star Spangled Banner et que prêtons le serment d'allégeance. Pourquoi ne pas se lever pendant que nous lisons la parole de Dieu? Je lirai ce soir un passage des Hébreux, le chapitre 13, en commençant par le premier verset. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitaliser, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que vos conversations ne soient pas inspirées par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Inclinons la tête un instant pour un mot de prière. Maintenant, avec la tête et le cœur inclinés, je me demande s'il y aurait des requêtes ce soir, si vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, voudriez-vous simplement lever la main vers Dieu en disant, « Souviens-toi de moi, Seigneur. » Merci. Notre Père céleste, alors que nous nous approchons de ton divin trône, dans le nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, qui a dit, « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, cela vous sera accordé. » Et nous sommes tellement reconnaissants pour cette promesse de savoir cela, que notre foi s'étend maintenant au-delà de tous les doutes, sachant que par la foi, nous avons une conversation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant. Car c'est une promesse. Il est encore dit, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Maintenant, chacun de nous a une requête, Seigneur, alors que nous levons la main vers toi. Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, derrière notre main. Et nous prions pour que tu nous répondes, Seigneur. Non pas que nous soyons dignes de la réponse, mais parce que tu as promis de répondre. Tu as dit que tu l'accorderais, et je sais que tu le feras, car tu es le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre, et le juge de tous les cieux et de la terre. Et prononcerais-tu quelque chose qui ne s'accomplirait? Loin de Dieu de faire une telle chose. Ce qui manque, c'est notre foi pour y croire. Et nous prions, Seigneur, que cette soirée puisse puisse tellement inspirer notre foi et la faire jaillir dans un lieu tel que nous marcherons par elle, Seigneur, au-delà de l'entendement. Cela, nous n'essaierons pas de comprendre, nous allons seulement y croire. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère et l'évidence de celles qu'on ne peut pas voir ou prouver. Nous y croyons simplement et c'est Dieu qui le fait s'accomplir. Et nous prions, Père, que là, que les anges de Dieu se tiennent à chaque porte, à chaque rangée de sièges et à chaque siège et qu'ils convainquent les pécheurs qu'ils ont tort et puissent-ils accepter le Seigneur Jésus ensuite. Et ceux qui n'ont pas le baptême de l'Esprit, que le Saint-Esprit tombe pendant que nous parlons et pendant que la présence de Christ est si réelle. Accorde-le, Seigneur. Nous prions pour qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous, que chaque personne qui passe ses portes, Seigneur, être tellement inspirée par la foi qu'ils seront guéris, chacune d'entre elles. Bénis ces ministres, Seigneur, ces églises à la grandeur du pays. Puissions-nous, vu ce grand effort que ces gens ont déployé, modeste peuple que nous sommes, mais pourtant, Seigneur, un peuple qui est sincère et qui essaie de garder cette foi qui a été autrefois transmise aux saints au milieu des ténèbres. Puisse-t-il y avoir un réveil à l'ancienne qui se déclenche dans les églises partout et les saints affamés qui commencent à s'écrier et des pécheurs qui naissent dans leur royaume de Dieu en tant que saint. Accorde-le, Seigneur. C'est là notre but, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous essayons de le faire pour ton honneur, Seigneur, car nous savons que nous ne resterons pas encore bien longtemps. Nous voyons la terre frémir et trembler de nouveau, et un vendredi saint, et comme elle l'a fait il y a 1900 ans, un vendredi saint. Et tu as dit qu'il y aurait des tremblements de terre en divers lieux. Nous voyons tous les signes apparaître, et nous savons que le temps est proche. Aussi, Seigneur, nous voulons travailler tant que nous le pouvons, car quand la vie sera terminée, nous ne travaillons plus. Et nous prions, Père Céleste, que nous mettions de l'avant nos efforts maintenant même, et quand la réunion entrera dans l'histoire, puissions-nous estimer avoir fait de notre mieux. Accorde-le, Seigneur. Bénis mes frères partout. Bénis tous ceux qui viendront à la réunion et ceux qui entendront, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, frère. Je voudrais prendre pour sujet ce soir, si seulement on peut appeler cela un sujet, un petit discours formel et qu'on appelle Jésus, le Christ plutôt, qui est identifié dans tous les âges. En d'autres termes, l'identification de Christ dans tous les âges. Car Hébreux 13:8 a dit « Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Et nous voulons voir dans le passé ce qu'il était. Maintenant, nous parlons tellement de lui, ici, maintenant, parler de lui, et maintenant, s'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, et s'il a été vu et connu dans le passé, alors pourquoi pas aujourd'hui? S'il a été vu et connu et identifié dans le passé, alors pourquoi ne faisons-nous pas la même chose aujourd'hui? Nous constatons cette grande personne, personne ne pourrait jamais entendre parler de lui sans qu'il ne veuille en découvrir davantage sur lui. Il y a quelque chose à son sujet, ce nom de Jésus-Christ, il n'y a tout simplement pas d'autre nom, nulle part, qui attire les gens comme ça. C'est quelque chose à son sujet. L'homme sait qu'il vient de l'au-delà. Et un rideau sombre et ombrageux est suspendu entre lui et l'endroit où il était avant de venir ici, et il sait qu'il doit aller derrière ce rideau. Il veut toujours savoir d'où il vient, ce qu'il est et où il va. Il y a des millions de volumes qui ont été écrits, je pense, sur le sujet. Mais il n'y en a qu'un seul livre, et c'est de... Elle est elle-même constituée de 66 volumes qui peuvent vous dire d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Et c'est cette Bible. C'est la parole qui vous dit d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez. Tant de gens qui ont tellement d'idées différentes sur Christ, et surtout en ce jour dans lequel nous vivons maintenant. Nous en avons certains d'entre eux qui le considèrent comme un grand pédagogue. Mais il était plus qu'un grand pédagogue, voyez. Il a été, il n'y a jamais eu un homme qui a parlé comme lui, mais il était plus grand qu'un pédagogue. Mais il semble que ce soit plutôt comme une grande philosophie parmi beaucoup d'églises aujourd'hui de le considérer simplement comme un pédagogue, personne n'ayant jamais enseigné comme lui auparavant. Il n'est qu'un grand et merveilleux historien de l'Antiquité, ou plutôt un pédagogue d'autrefois. Son enseignement est très bien, et vous pouvez en croire une partie, et l'autre partie, vous ne le pouvez pas, mais il était tout un philosophe. En d'autres termes, il le considère comme un peu comme Confucius, un philosophe chinois d'il y a plusieurs centaines d'années. Il était plus qu'un pédagogue, il est plus que ça. Puis certains, à son sujet, pensent qu'il n'est qu'un homme bon. Eh bien, il était un homme bon. C'était le seul homme bon que nous ayons jamais eu. C'était lui. Il fallait qu'il y ait un homme bon pour mourir pour nous, mauvais homme, pour nous rendre bons, pas pour nos mérites. Parce qu'un homme bon a fait ça, il a tout racheté, voyez. Et combien ce sera insensé, malgré la seule voie de la rédemption et le seul plan qu'il a été fait, de le rejeter. Ce serait une chose irréfléchie à faire, de refuser la seule voie, le seul plan. C'est Dieu, le plan de Dieu. Il y a beaucoup d'autres plans, mais Dieu a un plan, et ce plan passe par Jésus-Christ et lui seul. Ce n'est pas par l'entremise d'un système d'éducation, d'un système dénominationnel ou quoi que ce soit d'autre. C'est par Jésus-Christ et lui seul. C'est le plan éternel de Dieu à travers lui. Dieu fait toujours les choses d'une seule façon. Il ne change jamais sa façon de le faire. Maintenant, nous découvrons que certains disent que c'était un prophète. Et prophète, il l'était. Mais il était plus qu'un prophète. C'était un prophète plus. Et il y avait beaucoup de prophètes. Tous les prophètes sont morts à la porte de la mort. Mais cet homme a pris les clés de la mort, l'enfer, la tombe, comme Samson l'a fait aux portes de Gaza, et est parti avec. Il a enlevé l'aiguillon et la mort elle-même et les a engloutis dans la victoire, et il est ressuscité le troisième jour, triomphant, rendant ses croyants plus que conquérants. C'est déjà conquis. Il ne reste rien d'autre à faire que d'entrer directement avec le chant de victoire dans nos cœurs. Il est le grand triomphateur, et cet être glorieux était plus qu'un prophète. Or, les prophètes étaient de grands hommes. Nous le savons, la parole de l'Éternel est venue aux prophètes, et elle vient à eux et à eux seuls. Et nous voyons que c'est l'Écriture, ce qu'elle dit. Il ne fait rien sans d'abord le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Ils étaient de grands hommes, mais cet homme était plus qu'un prophète. Maintenant, nous découvrons qu'alors, beaucoup de gens pensaient qu'il était un organisateur d'églises, était un grand homme d'un esprit brillant qui organisait des églises et qui savait comment les réunir. J'ai entendu un prêtre il n'y a pas longtemps qui a dit « Jésus-Christ a organisé la première église romaine et il devait savoir comment le faire. » Or, l'église n'a jamais été organisée et elle n'a jamais commencé à Rome. Elle a commencé à Jérusalem le jour de la Pentecôte et non à Nicée, Rome. Elle et Jésus n'a jamais rien organisé. Lui, la seule chose qu'il a faite, c'était l'appel. Jamais vous n'êtes pas organisé en Christ. Vous êtes né dans le royaume de Dieu. Je viens d'avoir mon anniversaire lundi dernier et j'ai eu 55 ans. Et vous savez, la famille Branham ne m'a jamais demandé de joindre la famille. Je suis né un Branham. Et c'est ainsi que nous sommes chrétiens. Nous naissons simplement un chrétien par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous sommes chrétiens par naissance. Ça fait de nous de nouvelles créatures. Dans notre vieille nature, nous ne pourrions jamais être chrétiens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y en a tant qui se disent chrétiens et vivent n'importe quel genre de vie. Ils n'ont jamais fait l'expérience de cette nouvelle naissance, de ce que quelque chose qui vous change, qui enlève la vie. C'est comme retirer le sang d'un homme qui a un certain type de sang et le remplacer par un autre type de sang. C'est de retirer l'ancienne vie de l'homme et d'injecter la vie de Christ dans le croyant. Alors, il devient une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Or, le seul moyen pour nous de le savoir et qui pourrait rendre tous les gens satisfaits, si je demandais aux pentecôtistes ce soir, qu'en pensez-vous qu'il devrait être? Ils voudraient qu'il soit un pentecôtiste. Et si je demandais aux frères unis ce qu'il devait être, Eh bien, il était un frère uni. J'ai demandé aux méthodistes, eh bien, il était un méthodiste, les baptistes, et ainsi de suite. Mais maintenant, il n'y a qu'une seule façon d'être certain de cela et de le faire scripturairement. Maintenant, nous voulons toujours, sur cette estrade, être exactement avec l'Écriture. Si ce n'est pas le cas, vous avez le devoir de venir me voir et de me corriger. Maintenant, il faut que ce soit conforme aux Écritures. Or, la seule façon de savoir ce qu'il est aujourd'hui, c'est de découvrir ce qu'il était. Voyez, il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si nous pouvons trouver ce qu'il était, alors il doit être le même aujourd'hui parce qu'il ne peut pas changer. La Bible dit, il est le même, M-E-M-E, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Or, dans le 1er Jean, au Saint-Jean, le premier chapitre, nous le voyons, voici ce que l'écrivain a dit. Inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Puis-je l'éclaircir? Au commencement, il y avait l'Éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, notre mot anglais, Dieu, est un objet d'adoration. Mais lui, il n'y avait rien pour l'adorer. Il était simplement l'Éternel. En lui, il y avait des attributs. Tout le monde sait ce qu'est un attribut. En d'autres termes, en lui étaient ses pensées, des pensées justes. C'est son attribut. Ensuite, sa parole. Et une pensée exprimée est une parole. Au commencement était la parole. Avant même qu'elle soit exprimée, c'était une pensée, des attributs. Dans cette pensée, il allait devenir Dieu. Il a probablement créé les anges d'abord, puis il était adoré, il était Dieu. Et donc, en lui, il y avait les attributs pour être un père, pour être un fils, pour être un sauveur. Rien n'était perdu. Il fallait que quelque chose soit perdu. Il fallait donc trouver un moyen pour cela, pour être un guérisseur. Rien n'était malade, donc il devait quelque chose soit malade pour qu'il puisse guérir. C'est seulement pour démontrer ses attributs. Et maintenant, souvenez-vous, si jamais vous l'avez eu et que vous aurez la vie éternelle, vous l'aviez avec lui alors. Voyez, vous l'aviez avec lui, parce que Jésus est venu et Jésus était le Rédempteur. Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener d'où il est tombé ou d'où il est sorti. Le racheter, le ramener, et vous, ce que vous avez l'air, qui vous êtes, qui est votre nom. C'était la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Et Jésus n'est pas venu pour tout sauver, il le voulait, mais il est venu pour racheter, pour ramener ceux qui étaient dans ses pensées avant le commencement. C'est pour ça qu'il était la parole faite chair. Vous voyez? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La parole, la pensée de Dieu sur la façon dont il le ferait, il s'est exprimé en Jésus-Christ. C'était Dieu qui devenait matériel. Or, là où vous êtes maintenant, vous devez mourir parce que vous êtes encore comme si vous preniez une photo. Vous êtes le négatif. Tout négatif doit aller dans la chambre noire à travers les acides pour développer l'image, pour que vous voyez ce que c'est. Nous sommes maintenant à l'image exprimée de lui. C'est le négatif qui a été pris. Nous sommes une vie humaine. Nous devons aller dans la chambre noire, descendre dans la tombe, passer par le développement pour revenir à l'image. Oh là là, jeune pour toujours. Toute la vieillesse et tous les défauts et tout vont être enlevés. Ainsi, nous sommes rachetés, les attributs de Dieu redevenus ainsi. Dieu physique avec Christ dans l'Église, nous, comme un homme et sa femme. C'est vrai, Christ est l'épouse, parce que ça rachète sa pensée s'exprime. Maintenant, vous dites, cela a pris du temps, pas à Dieu. Nous sommes limités, nous devons nous dépêcher. Je réfléchissais, quand j'ai quitté Jeffersonville et que je roulais à 30 000 à l'heure, j'ai roulé jusqu'à Birmingham en un jour et un peu en soirée. Et j'ai pensé que cela ne signifiait pas grand-chose pour moi. Et si une petite fourmi essayait de courir à cette vitesse, ce que ça signifierait pour elle, voyez, elle ne pourrait pas y arriver en des milliers de vies. Mais ça ne signifiait rien pour moi, beaucoup pour moi. Qu'en est-il d'un avion? Qu'en est-il d'un jet? Et puis d'un astronaute? Et puis qu'en est-il de Dieu? Voyez, Jésus a été crucifié hier après-midi selon le temps de Dieu. S'il avait du temps, 1000 ans, c'est seulement un jour avec Dieu, comme il en a été. Ce n'est même pas ça, seulement comme il en a été un jour. Alors cela n'a pas été qu'à peine une semaine, si vous voulez compter sur le temps, selon le temps pour lui, le tout début, depuis le début de la création, juste en le développant. Dieu, avec ses pensées, devenant matériel, et alors cela nous amène avec la vie éternelle. et la vie éternelle, il n'en existe qu'une seule forme, c'est Dieu. Et puis c'est Dieu exprimé dans son Église comme Dieu exprimé dans son Fils. C'est le même Dieu tout le temps. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Il ne fait que ramener toute la chose. Maintenant, au commencement était la parole. Maintenant, si nous devions parler de qui va juger le monde, eh bien, vous diriez, quelqu'un dirait, j'ai entendu une personne catholique dire, Dieu va juger le monde par l'Église catholique. S'il le fait, par quelle Église catholique? Vous voyez, s'il y en a tellement de différentes, l'orthodoxe, la grecque ou la romaine ou quoi, voyez, sur quelle Église catholique va-t-il juger le monde? Eh bien, s'il le juge par l'Église catholique, alors le protestant est exclu. S'il le juge par l'Église protestante, alors le catholique est exclu. S'il le juge par le méthodiste, le baptiste est exclu. Eh bien, vous dites, attendez une minute, ils sont tous, oh non, souvenez-vous qu'au commencement, la seule unique fortification, celle que Dieu a donnée à Adam et Ève, était de rester derrière sa parole. Et juste de ne pas, Satan ne s'est pas trompé, je ne lui ai pas dit qu'il en était ainsi. Il a juste déformé une toute petite phase de cela. Et si une toute petite phase a causé tous ses ennuis, ses maladies et ses chagrins et cette tristesse, cette toute petite phase va nous empêcher d'y entrer. Dieu ne jugera pas le monde par un certain groupe. Il va juger le monde par Jésus-Christ et Christ est la parole. Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Alors, il est la parole de Dieu exprimée dans chaque âge. Il fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'est identifié au commencement avec les prophètes. Maintenant, souvenez-vous, les prophètes sont ceux par qui le Seigneur parle. Et maintenant, remarquez qu'il s'est identifié dans des êtres humains depuis le tout début. Depuis le tout début des temps, il a toujours une manière de faire les choses et il ne change jamais sa manière. C'est la raison pour laquelle je peux croire sa parole. Si jamais Dieu est appelé sur la scène pour passer à l'action, et la décision que Dieu a prise quand il a été appelé sur la scène, il doit agir de la même manière chaque fois qu'il est appelé sur la scène où il a mal agi la première fois. Sinon, s'il a été appelé à sauver un homme, il l'a sauvé sur une certaine base. Il s'est appelé à sauver un autre homme, il doit le faire de la même manière qu'il l'a fait la première fois ou il l'a mal fait quand il l'a fait la première fois. Si jamais il est appelé sur la scène pour guérir un homme et qu'il l'a guéri sur la base d'une certaine chose, si jamais il est appelé de nouveau pour guérir, il doit guérir sur la même base où il a mal agi. Il est infini, omniprésent, omniscient. Il est le Dieu infini, donc il ne change pas. Maintenant, nous sommes limités. Nous pouvons dire que ceci est vrai aujourd'hui, demain, trouver quelque chose de différent. Nous pouvons nous améliorer. Nous avons de meilleurs, nous construisons de meilleures maisons qu'il y a 100 ans. Nous avons de meilleures voitures qu'il y a 20 ans et nous avons de meilleurs moyens de transport et tout ce que vous voulez. Nous sommes meilleurs parce que nous apprenons, mais pas Dieu, parce qu'il est parfait au départ. C'est pourquoi lui et sa parole sont les mêmes. Donc, sa parole est parfaite. Si vous ne croyez pas cela, ne venez jamais dans la ligne de prière parce que c'est la seule base sur laquelle vous pouvez accepter quelque chose. La foi ne peut reposer que sur quelque chose dont elle est sûre. Et la vraie foi authentique repose sur le rocher éternel de la parole éternelle de Dieu. Elle ne bouge pas. Elle reste là, peu importe. Parlons du rocher de Gibraltar, c'est le rocher des âges sur lequel elle repose. La parole ne peut jamais changer et la foi repose sur cela. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Les hommes et les femmes qui ont accompli quelque chose étaient des hommes et des femmes qui croyaient que c'était la vérité. Et c'est la vérité. Lui, la parole, est la vérité. Maintenant, nous découvrons qu'au commencement, Dieu a assigné une certaine quantité de paroles à chaque âge, à chaque âge. Et alors que le temps arrive pour cette parole d'être révélée, ne manquez pas ceci. Quand vient le temps que cette parole soit révélée, habituellement, l'homme l'a tellement brouillé au point où il apparaît à un prophète. Sondez les Écritures, voyez. Maintenant, rappelez-vous, le Dieu immuable, il ne peut pas changer ses voies. Il doit à chaque fois le faire de la même façon immuable. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand l'homme est tombé, a péché, et Dieu a été appelé, soit pour le jeter en jugement, ou de pouvoir pourvoir un moyen d'échapper pour lui. Or, Dieu, dans le jardin d'Éden, a fait un plan pour sauver l'homme, une seule voie, et c'était par le sang versé d'un sujet innocent. Et il ne l'a jamais changé. Nous avons essayé de construire des villes, des tours, d'éduquer, de former une dénomination, mais tout cela a échoué. Dieu ne peut rencontrer l'homme que sous le sang versé de l'innocent. Il a fait cela dans le jardin d'Éden et il ne l'a jamais changé. Et Dieu ne change jamais ses voies. Et s'il le fait, alors il est limité comme moi, comme vous l'êtes. Nous disons, eh bien, j'avais tort là, mais je vais avoir raison cette fois. Pas Dieu. Il a raison au départ. Il n'a pas besoin de rien changer. Il a fait la promesse. Il est Dieu. Il s'y tient. Comme Abraham, il était persuadé que Dieu pouvait garder tout ce qu'il promettait, alors il appelait tout ce qui était contraire à la parole comme si ça n'existait pas. Il a simplement continué comme si rien n'était, contre la science, contre les preuves scientifiques, contre les raisonnements, contre toute espérance, contre tout ce qu'il y avait. La parole de Dieu passe en premier. Abraham a dit que tout le reste soit faux. Il allait avoir le bébé de toute façon, et il l'a eu parce qu'il y a cru. Nous découvrons maintenant que le Dieu immuable fait toujours la même chose. Maintenant, remarquez, rapidement, tout au long de l'histoire, venez avec moi maintenant pour les prochaines minutes. Retournons en arrière pour le découvrir. Au commencement, il a parlé au prophète. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. Et le prophète pouvait prédire des choses divines et que cela arrive juste comme ça était son identification. Un prophète, un voyant, signifie celui qui annonce ou prédit et qui est aussi un interprète divin de la parole écrite. N'importe qui sait ça, qui sait ce qu'un prophète veut dire. Maintenant, le mot anglais prophète, P-R-O-P-H-E-T-E, signifie prédicateur, n'importe quel prédicateur, mais un voyant de l'Ancien Testament qu'on appelait prophète, c'était lui qui voyait d'avance les choses. Il a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou un prophète, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Mais si cela n'arrive pas, n'écoutez pas ce prophète, voyez, parce qu'il prophétise faussement. Mais si je l'ai envoyé, ce sera mon identification, ce qu'il dit s'accomplira. Il est né dans le monde, ordonné, prédestiné par Dieu à faire cela, car tous les dons et les appels sont sans repentir. Ils sont prédestinés de Dieu. Avant même que le monde ne soit, il en savait tout à son sujet. Il connaissait chaque puce, chaque mouche et combien de suffes elle ferait et combien de fois elle battrait des yeux. C'est être infini, vous voyez, infini. C'est juste, si ce n'est pas le cas, alors il n'est pas infini. Il connaissait toutes choses et il est omniscient parce qu'il est omniprésent. Cela fait omniscient, fait qu'il est omniprésent. Il sait tout. Il le savait avant le commencement du monde. Il savait avant le commencement du monde que nous serions assis ici. Il savait combien de fois j'allais lever les mains en l'air. Et puis, il connaissait les mots que je dirais. Il savait combien de fois vous battriez des yeux, ce que vous penseriez avant même le commencement du monde. De quoi avons-nous peur? Dieu est notre Père, c'est vrai. Il est notre Père. Nous n'avons pas d'inquiétude. Ces gens ont seulement perdu leur foi et leur confiance en lui. Et nous découvrons que cela dure un temps et qu'il y a des paroles que Dieu a dites et qui se sont accomplis, et puis ils s'embrouillent tous, et puis Dieu nous envoie un prophète sur la scène, et ce prophète confirme cette parole pour cet âge. Parcourez les âges de l'Église, ce que nous sommes censés avoir. Vous voyez, si vous n'imaginez pas ces hommes à travers les âges de l'Église, comme nous les voyons depuis les apôtres. Maintenant, remarquez ceci encore une fois. Dieu a parlé à Noé, il était un prophète, lui a dit ce qui allait arriver, il a prophétisé et c'est arrivé. Ensuite est venu Joseph. Joseph, un exemple parfait, c'était Christ en Joseph. Eh bien, vous remarquerez qu'il était aimé de son père, méprisé de ses frères, parce qu'il était un voyant. Et il le haïssait sans raison. L'homme ne pouvait pas s'en empêcher ce qu'il était. Il l'était, et les autres frères le haïssaient, un très bon type de tous les âges. Toujours quand un voyant arrive sur la scène, les autres le détestent. Pour la même raison qu'ils l'ont fait pour Joseph, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il pouvait interpréter leurs songes, il n'a jamais eu tort. Il a prédit des choses, il n'a jamais eu tort. Et ses frères le haïssaient sans raison. Et remarquez, sa vie représentait très précisément Christ pour nous, exactement. Il a même été vendu presque pour 30 pièces d'argent, pris du fossé, placé à la droite de Pharaon, celui qui gouvernait le monde en ce jour-là. Et chaque fois qu'il quittait le pays, il sonnait de la trompette et disait que tout genou fléchisse, car Joseph arrive, un type parfait de Christ dans le millénium, quand les trompettes sonnera, et il va venir, et chaque genou fléchira, et chaque langue se confessera à lui. Remarquez, dans sa prison, il était prophète. C'est là qu'il a été vendu et mis en prison à cause de la femme de Potiphar. Puis nous découvrons que le boucher et le boulanger ont tous deux eu un songe et il a interprété le songe. L'un a été perdu et l'autre a été sauvé, de même que Jésus sur la croix, exactement. L'un était perdu, l'autre était sauvé quand il était dans sa prison, attaché à la croix. C'est un exemple parfait. Nous découvrons que lorsque Moïse est entré en scène, maintenant, Moïse n'a pas pu venir dans le même esprit ou de la même manière avec le même message que Noé avait. C'était un autre âge pour accomplir une autre parole. Dieu a dit, ta postérité séjournera dans un pays étranger en esclavage pendant 400 ans, puis je les ferai sortir d'une main puissante. Mais quand Moïse fut appelé, il fallut 40 ans de scolarité, puis 40 ans pour tout faire sortir de lui de nouveau. Alors Dieu l'appela par la lumière surnaturelle, une colonne de feu qui était dans un buchard ardent. Et il en savait plus sur Dieu en 5 minutes qu'il n'en a appris en 40 ans, parce qu'il était dans sa présence. Quand un homme est dans la présence de Dieu, alors il sait quelque chose. Il sait quelque chose qu'il ne peut pas apprendre dans des livres. On ne peut pas apprendre Dieu par des livres. L'éducation prend, vous dites, il est DDD, un docteur en philosophie, ça l'éloigne encore plus de Dieu, selon moi. On ne connaît pas Dieu par l'instruction, on connaît Dieu par la foi, et vous le croyez. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. Et pourtant, c'est pourquoi je pense que nos réunions dans la présence divine de Dieu devraient repousser la foi du peuple pour savoir cela. Peu importe ce que dit la science, peu importe ce que dit l'incroyant, Christ vous a été envoyé à vous, les croyants. Vous avez le droit de jouir de sa communion et de ses bénédictions et de tout ce pourquoi il est mort. Vous y êtes. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'Évangile tant qu'il ne s'est pas agenouillé sur les sables sacrés là-bas en présence de cette colonne de feu et qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu lui parler. Vous savez, les religions d'aujourd'hui peuvent tout expliquer. Et ceci est arrivé, et cela s'est dû passer, et ceci était pour un autre âge, et ça. Mais un homme qui a déjà rencontré Dieu face à face et lui a parlé, il n'y a aucun scientifique, aucun démon ou rien d'autre ne peut venir sur cette terre sacrée. Il était là où il a rencontré Dieu. Il sait de quoi il parle. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre essaie de lui dire. Dieu qui parle dans les âges à travers ses prophètes, s'identifiant lui-même à chaque fois par l'âge qui vient. Maintenant, Jésus de Nazareth est venu. Il était un prophète, lui aussi. La Bible dit qu'il le serait. Deutéronome 18:15, Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète semblable à moi, et le peuple écoutera. » Remarquez, maintenant, chaque âge, tout Israël, tout le peuple croyait cela, les prophètes, quand ils étaient identifiés prophètes. Hébreux 1er chapitre dit, « Dieu, à diverses époques et de diverses manières, a parlé au Père par les prophètes, en ces derniers jours, par son Fils, Jésus-Christ. » Voyez, par son Fils Jésus-Christ, remarquez, il ne change jamais sa voix. La même chose, toujours la continuité de la parole de Dieu. Dieu n'a jamais utilisé un système, il n'a jamais utilisé une organisation, il n'a jamais utilisé jamais de groupe, il utilise une seule personne. Si vous êtes méthodiste, baptiste, c'est bien, presbytérien, pentecôtiste, c'est bien, mais Dieu traite avec vous en tant qu'individu. C'est vous, pas votre Église. Vous êtes celui qui est responsable, pas ce qu'en dit votre Église, ce que Dieu vous a dit. Cela doit s'accorder avec la parole. Oui, Dieu traite avec des individus. Il l'a toujours fait. Les prophètes, il n'y a pas une école de prophètes. Ils ont essayé ça une fois et ont échoué. Alors, ils ont découvert qu'Akab en avait plein là-bas. Mais Dieu en avait un aussi, du nom de Mickey, que tous les autres haïssaient. Mais il avait la vérité à ce moment-là. Il avait la vérité de la parole. Parce que sa prophétie était selon la parole. Ça doit toujours l'être. Le prophète est envoyé pour confirmer la parole promise pour ce jour-là. Maintenant, voilà exactement comment ils ont failli de reconnaître Jésus. C'est tout à fait ça. Regardez ces hommes, ces pharisiens, ces sadducéens, des érudits que nous n'avons pas aujourd'hui. Ils devaient naître d'une certaine tribu, Lévi. Leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était sacrificateur d'un bout à l'autre. Ils ont étudié cette parole jour et nuit, jour et nuit. Mais quand la parole a été confirmée, ils ne la savaient pas. Vous voyez? Il avait des traditions. Jésus a dit, « Avec vos traditions, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. » Maintenant, il vient exactement comme le prophète a dit qu'il viendrait. Mais voyez-vous, il avait une tradition et il ne pouvait pas voir cela. Ce bébé né là-bas d'une naissance illégitime dans une étable à vache, comment est-ce possible? Et ce type n'est jamais allé dans une école. Il n'avait pas d'accréditation, il n'avait pas de carte d'association, il n'appartenait à aucune organisation, il ne connaissait aucune école auquel il aurait été. Comment cela pourrait-il être quelque chose? Mais ça l'était. Ils n'ont pas vu. Il a dit, les œuvres que je fais témoignent de moi. Sondez les Écritures, car c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui témoignent, qui vous disent qui je suis. Ils sont mon témoignage, les Écritures. Il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres que je fais. Ce sont elles qui vous disent qui je suis. Ils ont dit, nous avons Moïse, nous croyons Moïse. Il a dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez. Il a dit, il a écrit mon sujet, vous voyez, il était si obscur, il ne pouvait pas, toujours pas le voir. Je me demande si ça ne pourrait pas se répéter. C'est prophétisé que, vous savez, c'est prophétisé que dans ce temps-là, vous êtes à notre époque, oh oui, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est prophétisé et toutes les prophéties doivent s'accomplir. Je me demande si nous sommes proches de ce moment. Je me demande juste si nous le sommes. Regardons un peu autour et nous voyons à quel point nous sommes à l'aise à Sion. Maintenant, nous voyons ce qu'était Jésus quand il est venu. Il était la parole. Il était absolument la parole. Et la parole corrige toujours. Elle corrige l'erreur. Bien que l'erreur ne le croit pas, parfois, mais la parole corrige l'erreur. Regarde Jésus, âgé d'à peine 12 ans, un petit garçon à peu près comme ça, ce petit garçon assis là, endormi avec les appareils orthopédiques aux jambes. Jésus était un petit garçon âgé d'environ 12 ans, aucune trace de l'endroit où il avait été à l'école. Mais ils sont montés à la fête de la Pâque, et quand plutôt à la fête de la Pentecôte, ils sont montés à la fête, Joseph et Marie et toute l'assemblée qui venait de la ville. Ils sont montés à Jérusalem, et après 3 jours de marche, ils ont présumé qu'il était là avec les gens et certains de leurs proches là-bas, mais ils l'ont perdu. Ils sont partis à sa recherche et ils n'étaient pas là. Ils sont retournés à Jérusalem et l'ont trouvé dans le temple. Ils discutaient avec les sacrificateurs, ils discutaient avec ces hommes. Remarquez, ici, ce n'est pas pour vous blesser, vous les catholiques. Mais vous qui prenez Marie pour une déesse ou une intercessrice, regardez ici, elle donne un témoignage. Regardez la condamner son propre témoignage. Elle a dit, « Ton père et moi, nous te cherchions avec larmes. » Regardez ce qu'elle a fait. Elle a condamné son propre témoignage. Elle appelait Joseph son père. Mais remarquez, c'était juste un enfant, juste un petit garçon. Mais la parole corrige toujours l'erreur. Elle a dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » La parole, spontanément, vous voyez, a corrigé l'erreur. Elle a dit, « Ton père et moi, Joseph, juste devant ses sacrificateurs à qui elle avait dit qu'elle avait conçu par le Saint-Esprit. » Ici, elle avait témoigné, identifié Joseph comme son père, condamnant son propre témoignage. Mais regardez la parole le saisir. Il était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole l'a saisie pour corriger l'erreur. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Si Joseph avait été son père, il aurait été dans l'atelier de menuiserie, dans son commerce. Mais les affaires de son père étaient de condamner ses organisations et ses choses, et il les condamnait là-bas, là où il était à sa place. Il passait un moment là-bas, et il ne comprenait même pas comment ce garçon pouvait savoir de telles choses, mais il était la parole. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Ce qu'il a dit, il avait l'autorité pour le faire s'accomplir. Ses prophètes l'ont fait aussi, parce qu'il vivait dans cette heure. Il était tous les prophètes faits en un. Même plus que cela, parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était toute la parole. Les prophètes n'étaient que la parole de cet âge, mais il était la parole pour tous les âges. Il était Dieu lui-même descendant et manifesté dans un corps de chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Regardons comment il s'est identifié lui-même. Son premier, après qu'il soit sorti du désert, du fait d'avoir été baptisé du Saint-Esprit, baptisé avec Jean, voici une autre petite pensée que vous pourriez saisir juste avant que vous n'y pensiez. Savez-vous que la Bible a dit que la parole vient au prophète? S'il y a un prophète dans le pays, la parole doit venir à lui. Regardez Jean, qui était prophète, le premier qu'ils ont eu. Vous voyez, c'était un prophète de la parole, et pendant qu'il se tenait là à prophétiser, la parole est venue à lui dans l'eau. Jésus était la parole. Il est allé directement dans l'eau. Et Jean a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? » Il a dit qu'il en soit ainsi, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Pourquoi? Puis Jean étant prophète, et lui étant la parole, il savait qu'il était le sacrifice, donc le sacrifice doit être lavé avant qu'il ne soit présenté. Alors il a baptisé Jésus, il a lavé la parole avant qu'elle ne soit présentée. Vous voyez, qu'il en soit ainsi maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Et quand il lui a permis, Jésus est sorti immédiatement de l'eau, et voici les cieux était ouvert et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Il est allé dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours, puis il en est sorti. Suivons son ministère maintenant. Nous sommes à Saint Jean 1. Regardons ce qui se produit et voyons ce qui était alors. Alors nous pourrons découvrir ce qu'il était maintenant. Alors observez-le dans les âges passés maintenant. Nous sommes rendus au temps de Jésus. Ensuite, nous allons terminer. Peut-être que nous allons continuer demain soir à cet endroit et il nous reste que quelque chose. Le voici qui sort du désert. Premièrement, il y avait un homme du nom d'André. Il allait assister au message de Jean et Jean a commencé à parler. Jean savait qu'il allait être celui qui allait introduire le Messie parce qu'il avait dit, vous savez, son père était un sacrificateur, mais il n'avait jamais suivi son père. Son travail était trop important pour aller dans une des écoles de théologie. Alors, il est allé dans le désert à l'âge de 9 ans. Il savait qu'il devait identifier, qu'il devait voir le signe qui prouverait qu'il était ce Messie. Et il le savait de façon si certaine, il connaissait sa vocation, il en était si certain au point qu'il se tenait au milieu d'une foule comme ça. Il a dit, « Il est au milieu de vous maintenant. Il y en a un parmi vous que vous ne connaissez pas. Il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. » Il a dit, « Je ne suis même pas digne de délier ses chaussures. » Et puis tout de suite, Jésus est sorti, il a vu ce signe, il a dit, « J'ai vu le signe et je suis sûr que c'était lui. » Alors il l'a baptisé maintenant quand Jésus, et sans doute qu'André l'avait dit à son frère était un peu, Simon, c'était un dur qu'il ne voulait rien croire. Il a dit, je me souviens de ce que mon père m'a dit. Il a dit, mon fils, un jour, il a dit, tu sais, nous avons péché et nous avons fait confiance à Dieu pour nous donner du poisson, pour payer nos dettes et manger quelque chose. Il a dit, nous savons souvent dû prier bien avant la mort de maman et tout pour nous donner une bonne prise de poisson afin que nous puissions avoir de la nourriture pour la journée. Et j'ai toujours attendu, comme tout bon Hébreu, la venue du Messie. Il a dit, maintenant que je vieillis, je suppose que je ne le verrai pas, mais je veux que vous sachiez, mes enfants, juste avant qu'il entre en scène, il y aura toutes sortes de fausses choses qui vont s'élever, vous voyez, mais je veux que vous sachiez, nous devons faire confiance à la parole. Moïse, notre prophète, nous a dit, le Seigneur Dieu allait susciter un prophète. Nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années et des centaines d'années, mais quand le Messie viendra, il sera un prophète identifié. Maintenant, vous le connaîtrez parce qu'il sera prophète. Et cet homme prêchait, il ne savait, faisait rien d'autre que prêcher, Jean. Alors, Simon ne pouvait pas accepter ça. Alors, il lui a dit que celui dont il parlait était venu. Alors, ça l'avait identifié comme prophète, vous voyez, et qu'il avait ce qui s'était comme cela s'était passé. Alors, André et Simon sont allés un jour, et ils lavaient leur filet, ils sont allés voir Jésus. Et quand Simon est arrivé, il s'est précipité dans sa présence. Jésus l'a regardé et a dit, « Ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas. » C'était réglé. Il a tout de suite su que c'était cette parole faite chair, vous voyez? Il le savait. Pourquoi? Hébreux, le chapitre 4, verset 12, qui est connu de tous les érudits, que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Combien le lecteur le savent? Bien, Hébreux 4, c'est exact, 4, 12. Maintenant, quand il a vu cela, il savait qu'il ne savait pas seulement qui il était, mais qu'il connaissait aussi son saint vieux père. Il a su tout de suite que c'était le Messie. On lui a donné les clés du royaume plus tard. Ensuite, il y avait là un homme qui était là du nom de Philippe. Alors, il avait un homme qui avait étudié la Bible avec lui pendant de nombreuses années. C'était un homme nommé Nathanaël. Il vivait à une quinzaine de milles. Si vous vérifiez sur la carte, il est allé autour de la colline pour trouver Nathanaël. Et quand il l'a trouvé, il était un homme de plantation. Il cultivait des olives. Il était là-bas dans une plantation en train de prier. Et bien sûr, Philippe, après avoir vu Nathanaël prier, il était un homme bien élevé. Il a attendu qu'il ait fini de prier. Et quand il s'est levé, il a dit, viens voir qui nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. C'est le Messie dont nous parlons. Alors, viens, écoute cet homme. Allons, peut-il sortir quelque chose de bien d'une bande de gens comme ça, d'eux? Et je pense qu'il lui a donné la meilleure réponse que quelqu'un puisse lui donner. Il a dit, viens et vois, ne restez pas à la maison à critiquer. Venez voir par vous-même, apportez votre parole avec vous, et nous allons la sonder et découvrir de quoi il s'agit. Vous savez ce que la parole dit que ce Messie va être, ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui. Sondez la parole, découvrez ce qu'il est, qu'il soit une organisation, qu'il soit un groupe de personnes, qu'est-il, vous voyez? Nous découvrons donc qu'ils ont fait le tour de la colline, ils n'ont fait aucun doute que Philippe l'ayant raconté ce qu'il avait dit. Eh bien, ce vieux pêcheur qui n'avait pas assez d'éducation pour signer ce reçu, c'est là qu'il a attrapé ce poisson. Il lui a dit qui était son père. Ça ne nous surprendrait pas qu'il ne te dise pas qui tu es quand tu y seras. Oh, continue, il va falloir que je le voie, qu'il a dit. Il a marché tout droit dans sa présence, peut-être comme ceci, une ligne de prière ou peu importe ce que c'était. Jésus priait pour les malades et quand Jésus l'a regardé la première fois qu'il l'a vu, il a dit, voici un Israël en qui il n'y a pas de point de fraude. Il a dit, rabbin, ce qui signifie maître, quand m'as-tu vu? C'est la première fois que je te vois, quand tu m'as vu. Il a dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Oh, quel œil! Surveillez les effets secondaires. Rabbin, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Cet homme savait. Regardez la différence entre lui et les sacrificateurs qui étaient là-bas. Ces sacrificateurs n'y croyaient pas. Ils savent que c'était arrivé. Alors, ils ont dû donner une réponse à leur assemblée. Alors, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est un diable de bonne aventure. C'est Belzébul, le diable. C'est un diable. Et Jésus a dit, je vais vous pardonner pour cela. L'expiation n'avait pas encore été faite. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, maintenant, il fera la même chose. Un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, vous voyez où ça nous mènerait si nous n'aurions vu la même chose, voyez? Maintenant, nous allons aller juste un peu plus loin. Nous découvrons donc qu'il n'y avait que trois classes de gens sur Terre, trois races. Nous savons ça, Cham, Sem et le peuple de Japheth. C'est le Juif, le Samaritain et les gens des nations. Bon, le Samaritain est à moitié juif et des nations. Or, nous savons que les Juifs attendaient un Messie et les Samaritains aussi. Mais nous, les gens des nations, nous étions anglo-saxons, nous adorions les idoles, nous trimballions des messes sur notre dos et nous étions païens. Nous n'attendions pas de Messie et aucun Messie ne nous a été présenté non plus. Pas son signe. Nous avons vu un homme marcher, mais pas un signe messianique. Mais il y avait là la Samarie. Alors Jésus, une fois sur sa route avec Jéricho, a fait le tour de la montagne, avait besoin de passer par la Samarie. Il est venu dans une ville nommée Sichar. C'était longtemps vers midi, peut-être à un endroit semblable à celui-ci. Il est allé au puits, il s'est assis. Il a envoyé les disciples chercher des vivres et de la nourriture. Et pendant qu'il était là, une femme, une jeune femme de la ville, de mauvaise réputation, elle avait eu trop de maris. Elle est venue au puits. Bien sûr, elle ne pouvait pas venir avec les autres femmes parce que c'est toujours une coutume. Elles ne peuvent pas se côtoyer. Alors, elle est sortie pour aller chercher de l'eau. Et quand elle a commencé à laisser tomber le pot d'eau et à l'aide du treuil pour puiser l'eau, elle a entendu une voix d'homme dire, « Femme, apporte-moi à boire. » Elle a regardé autour d'elle et là, il y avait un Juif. Il devait avoir l'air un peu vieux pour son âge. Il avait peut-être l'air un peu plus vieux que ce qu'il était. Vous savez, ils ont dit dans Saint Jean 6 là-bas, « Tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Nous savons maintenant que tu es un diable. » Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, mais lui, son travail a dû le faire paraître un peu plus gris, peut-être un peu plus grisonnant ou quelque chose comme ça. Il n'avait que 33 ans, mais il avait l'air un peu plus âgé. Il a dit, « Tu dis, toi qui es juif, et tu te demandes à une femme de Samarie, il y a de la ségrégation, il n'y a rien que vous. On ne peut tout simplement pas faire ça. Vous ne pouvez pas censé faire ça. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » Que faisait-il? Il y avait une conversation. Le père l'avait envoyé là-bas. Mais il avait, « Voici la femme, ce doit être le temps. » Alors il a dit, il lui a parlé jusqu'à ce qu'il ait capté son esprit, qu'il l'ait vu. Voyez, la parole discerne les pensées et qui est dans le cœur. Il était la parole. Combien croient qu'il était la parole? Bien sûr, et la parole discerne les pensées dans le cœur. Voyez, il a dit qu'il avait trouvé quel était son problème. Nous savons tous ce que c'était. Trop de mari. Va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as dit la vérité. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien. Regardez cette petite femme. Voyez, elle venait des pensées de Dieu. Elle pouvait être rachetée. Elle était un sujet. Elle était représentée dans le ciel. Elle s'est retournée. Regardez la différence entre elle et ses prédicateurs, ses sacrificateurs. Ses prédicateurs, quand ils ont vu cela, ils ont dit, « Eh bien, cet homme est un diseur de bonne aventure. Il ne connaissait pas la parole. Regardez ce qu'elle a dit. Nous savons, monsieur, tu dois être un prophète. Nous n'en avons pas eu depuis des centaines d'années. Et nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. » Oh là là! Elle pourrait enseigner quelque chose à Birmingham. Elle pourrait enseigner quelque chose au reste du monde. Oui, monsieur, elle pourrait enseigner quelque chose à ses séminaires théologiques. Voyez, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, nous, monsieur, je perçois que tu es un prophète. Voyez, il lisait les pensées qui étaient dans son cœur. Elle a dit, « Tu dois être un prophète. » Nous savons, nous, les Samaritains, nous attendons cela. Un Messie viendra. Nous n'avons pas eu de prophète depuis 400 ans. Malachie était notre dernier prophète et il a dit qu'il y aurait un précurseur. Nous avons entendu parler de lui, un homme là, au Jourdain, là-bas. J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. J'en ai entendu parler. Nous attendons un Messie qui doit venir très bientôt. Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » C'était réglé. Elle est rentrée dans la ville. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce point le Messie lui-même? » Mes amis, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. Mais si c'était le Messie hier, c'est le Messie aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui. Il est mort afin de faire l'expiation pour que ces choses s'accomplissent, pour vous donner le privilège de puiser dans ce qu'il a fait pour vous. Maintenant, souvenez-vous, si vous êtes un pécheur, vous avez actuellement été sauvé quand Jésus est mort sur la croix. Mais vous devez le croire et l'accepter comme votre propre salut personnel. Et si vous êtes malade, vous avez été guéri quand Jésus a été blessé par nos transgressions, par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Maintenant, s'il se tenait ici ce soir avec ce complet qu'il m'a donné, il ne pourrait y avoir, si vous disiez « Guéris-moi, Seigneur », il ne pourrait pas le faire, il l'a déjà fait. Vous voyez? Mais maintenant, si quelqu'un d'entre vous dit, est-ce que Jésus pourrait être à Birmingham alors ce soir? Oui, monsieur, il a promis qu'il le serait. Comment serait-il ici? Sous quelle forme? Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, j'aurais aimé avoir le temps d'injecter une pensée de plus ici, mais je ne le ferai probablement pas. Laissez-moi le prendre très rapidement, voulez-vous me supporter pendant quelques minutes? Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Jésus a dit dans Saint-Luc, le chapitre 16 ou le chapitre 17, comme il en était au jour de Lot, ainsi il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Est-ce qu'il a dit cela? Maintenant, regardez ce que c'était. Il lisait la même Bible que nous, Genèse 22 ou 19, 20, quelque part là-dedans. Remarquez, il lisait la même Bible. Observez le contexte de Lot. Oh, quelle nation de pécheurs c'était! Quel lieu de péché! Regardez dans quoi on en est aujourd'hui. Regardez ce qu'il a dit. Une génération pécheresse et adultère, méchante et adultère, cherche un signe. Et ils l'auront, le signe de Jonas, ressuscité des morts ou ressuscité en étant comme mort dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Le Fils de l'homme, le signe de la résurrection de cette génération adultère, recevra le signe de la résurrection. Maintenant, Jésus a dit, comme il en était au jour de Lot, remarquez le contexte, il y avait 2 anges parmi les sodomites en train de prêcher, 2 grands messagers. Il y en avait un qui était resté avec Abraham. Et ceux qui sont descendus avec Sodome là-bas, ils ont accompli des signes. Comment l'ont-ils fait? En prêchant l'Évangile, ils ont frappé d'aveuglement. Leur propre prédication a rendu les gens aveugles. Ce n'était pas un Billy Graham modèle, j'en ai jamais vu un. Il n'y avait jamais eu un messager encore à l'Église dans aucune âge dont son nom ne s'est jamais terminé par H.A.M. Souvenez-vous, nous avons eu Moody, Sunday, Keith Finney, Knox, Calvin, ainsi de suite, Billy Sunday, mais jamais un H.A.M. Jusqu'à maintenant, H.A.M. Père des nations. C'est là maintenant, vous voyez là-bas? Observez le contexte de Sodome. Et souvenez-vous qu'il y avait un homme qui était resté avec eux là-haut, qu'Abraham avait appelé Elohim, Dieu. Observez comment il savait qu'il était Elohim. Il a dit, « Abraham, où est ta femme, Sarah? » Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Un homme de 100 ans, il a dit, « Je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite à la période de la vie, les 28 autres jours. J'attends depuis 25 ans maintenant, Sarah 90 ans, et lui à 100 ans, je vais te visiter selon la promesse de la vie. » Mais Sarah a fait, « Ah! » en elle-même dans la tente. Il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, ce « Ah! » dans la tente derrière moi? » Abraham l'a appelé Elohim, Dieu manifesté dans une chair humaine, mangeant un veau, buvant le lait de la vache et mangeant du pain, des gâteaux de maïs, et Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, quand Dieu va se manifester lui-même de nouveau dans la chair humaine. Et souvenez-vous, c'était le dernier signe. Abraham avait vu signe après signe après signe, mais ici, c'était Dieu, cette fois-ci, manifesté dans la chair, et il pouvait dire ce que Sarah pensait derrière lui. Donc, il savait que c'était la parole, parce que la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Vous voyez? Vous saisissez, levez la main si vous le saisissez. Très bien. Vous voyez? Maintenant, c'était le dernier signe. Maintenant, souvenez-vous, Abraham et son groupe n'étaient pas dans Sodome. Ils étaient hors de Sodome. Pas dans ce monde dénominationnel, hors de là, là-bas. Vous voyez le signe qu'ils ont eu? Un grand message intellectuel. Mais regardez quel signe l'Église élue a eu, Abraham, G-A-H-A-M, c'est 6 lettres. Le monde, le nombre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, il est du nombre 6, mais A-B-R-A-H-A-M, c'est 7 lettres. Vous voyez, l'Église élue se tenant à l'extérieur. Remarquez, il avait ce signe. Dieu s'était manifesté dans la chair. Et Jésus a dit maintenant, observez Luc, le chapitre 17, dans le, il sera comme il en était au jour de Sodome, et ici il en sera à la même, à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Et rappelez-vous, quand le Fils de l'homme, en ses derniers jours, se manifeste à son peuple, par lui-même œuvrant parmi les gens, Jean, comme c'était dans Jean 14, 12, il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et il nous a promis cela, de restaurer chaque voix à un message derrière elle. Et le message était, « Restaurer la foi à la foi originelle, Malachi 4. Restaurer la foi aux, des pères aux gens. » Ils se sont éloignés dans toutes sortes de choses, mais restaure à nouveau cette foi. Le message de l'heure, c'est revenir à la parole. Dieu, le, souvenez-vous, nous attendons un fils promis et nous sommes la semence d'Abraham. Est-ce vrai? La semence royale à travers Christ et ils attendaient un fils promis, Isaac. Et la semence royale, aujourd'hui, nous attendons un signe promis. Est-ce vrai? Le Fils de l'homme promis doit revenir. Et là, il avait reçu toutes sortes de messages et toutes sortes de choses qu'Abraham avait vues. Mais juste avant que le Fils promis, le dernier signe avant la destruction du monde des gens des nations, c'était ceci, Dieu manifesté dans une chair qui connaissait les secrets du cœur. Maintenant, c'est le dernier signe que l'Église et l'Église spirituelle reçoivent. C'est le dernier signe que l'Église naturelle reçoit, et le monde des gens des nations sera détruit, et il est prêt pour ça maintenant. La terre tremble de partout avec des tremblements de terre. Pourquoi? La première fois que le tremblement de terre a secoué la terre entière, c'était le vendredi saint. La dernière fois que cela a secoué, c'était un autre vendredi soir, vendredi saint. Pourquoi a-t-elle été secouée? Parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Pourquoi a-t-elle été secouée nouveau? Ils ont fait la même chose, voyez? Âge de l'Église de la Odyssée, n'importe quel érudit sait qu'il était à l'extérieur, frappant, essayant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le seul âge de l'Église qui l'a complètement amélioré et le conseil œcuménique, c'est exactement ce que vous avez fait pour former la marque de la bête et la faire entrer là-dedans. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, à moins qu'ils ne soient d'accord? Et en faisant cela, ils ont rejeté la parole encore une fois. Elle est à l'extérieur. Je n'arrive même pas à obtenir de collaboration nulle part. C'est tout à fait vrai. Oh, Dieu ait pitié. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, tu t'identifies toi-même dans tous les anges de Dieu. Dieu, tu étais Dieu qui a plusieurs reprises à parler au Père par les prophètes dans ces derniers jours par ton Fils, Jésus-Christ, que nous aimons et croyons et que nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme il l'a promis. Maintenant, Père, une foi si merveilleuse, une foi superbe, c'est facile de leur parler. Mais, ô Seigneur, que cette foi s'élève maintenant, qu'elle entre dans un autre niveau maintenant, qu'elle sorte de la pensée humaine. Ils ont entendu ceci, cela leur a été enseigné par leur pasteur, ils l'ont entendu pendant des années à venir. Et maintenant, nous prions, Père, pour que tu nous fasses connaître ce soir que tu n'es pas mort, mais que tu es vivant au siècle des siècles et que tu vis au milieu de ton peuple, comme le lys de la vallée, parmi toutes les autres fleurs, la plus belle fleur des 10 000. Nous prions au lys de la vallée que tu viennes à nous ce soir. Fais-toi connaître parmi nous pour t'identifier en cet âge, car cela a été promis, je viens de leur dire, la parole que dans les derniers jours, comme Sodome et Gomorre, de même que le Fils de l'homme se révélera lui-même, comme il l'a fait à Sodome et Gomorre, avant que le Fils promis vienne vers les élus et que la destruction vienne vers les rejetés. Alors, je prie, Père, pour qu'ils comprennent ceci et puisses-tu venir et tenir ta parole, ce que je sais que tu vas faire, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je crois que Billy a dit qu'il distribuait quelques cartes de prière. Est-ce vrai? Levez la main s'il y a des cartes distribuées. Quelle est la lettre qui y figure? B. Très bien. B. Dépêchons-nous rapidement. Je vais vous demander une chose. Si vous voulez bien rester tranquille, ne vous déplacez pas. Donnez-nous juste 10 minutes. Allez-vous le faire? Juste 10 minutes. Si tout le monde peut s'asseoir parfaitement tranquille pendant 10 minutes, ne vous déplacez pas. Très bien. Commençons par le numéro 1. Qui a B, numéro 1? Rapidement, levez la main si vous ne pouvez pas. L'homme était amené sur un lit de camp. Vous voyez? Quel est le numéro de sa carte de prière, si elle? Vous voyez, vous avez une carte de prière? Vous n'en avez pas? D'accord. Très bien. Numéro 1, est-ce que je l'ai manqué ou peut-être qu'on devrait commencer ailleurs? Alors, d'accord. Oh, je suis désolé. Très bien. Numéro 1. Numéro 2. 3. Numéro 2, levez. Parce que levez-vous quand je nomme votre numéro. 2, 3, 4. 4, 5. Surveillez votre carte, maintenant 5. Venez par ici et formez une petite ligne. 5, 6, 6, 7, 7. Si vous ne pouvez pas vous lever maintenant, laissez quelqu'un lever la main. Nous allons les chercher, d'accord. 7, 8, 8, 8, 8, 7, 8. Maintenant, nous sommes juste, nous avons vraiment dépassé l'heure maintenant. C'est bon, c'est très bien. Laissez-la s'asseoir là jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'appeler. Mettez-la dans la ligne de prière. Très bien. 9, 10, 11. Arrêtez-vous là. Très bien. Combien d'entre vous ici n'ont pas de carte de prière et vous êtes malade? Levez la main. Eh bien, levez la main. Combien ici ne me connaissent pas? Levez la main. Vous savez que je ne sais rien à votre sujet. Levez la main. Très bien. Maintenant, vous regardez par ici et croyez maintenant. Que tout le monde soit très respectueux. Maintenant, souvenez-vous, simplement une seule parole de sa part comptera plus que tout ce que je pourrais dire en 100 ans. Vous voyez, je pourrais prêcher ça. Combien croient que cela est la vérité? D'accord, maintenant, si c'est la vérité, Dieu est obligé. Si c'est sa parole, c'est sa promesse, il est obligé de le faire. Il est obligé de confirmer sa parole. Est-ce que c'est vrai? Et s'il le fait, croirez-vous? Vous le croirez? Maintenant, vous pouvez dire, Jésus, je ne regarde pas autour de moi et je ne le vois nulle part. Regardez si un homme entrait ici avec des marques de clous dans ses mains et des choses partout dans son visage et du sang, et ainsi de suite. N'importe quel hypocrite pourrait faire ça. Et rappelez-vous, Jésus ne viendra pas comme ça. Quand il viendra comme ça, le temps ne sera plus. Il n'y aura plus de temps quand il viendra comme ça. Mais pourquoi sauriez-vous que c'est lui s'il venait? Parce qu'il s'identifierait par son esprit, son signe, sa vie en nous. Je suis le cep, vous êtes les serments. Maintenant, souvenez-vous et croyez-le de tout votre cœur maintenant. Maintenant, c'est votre ligne de prière, tous ceux-là, là-bas. Je ne sais pas, 8 ou 10, d'accord, c'est très bien. Venez ici. Demain soir, nous allons essayer d'en prendre plus. Que tout le monde soit très respectueux maintenant. Laissez-les venir un par un alors qu'ils s'avancent. Maintenant, premièrement, je veux tous ceux qui sont dans cette ligne de prière, qui savent que je ne vous connais pas, la petite ligne de prière ici, qui savent que je ne vous connais pas, levez la main, qui savez que je ne sais rien à votre sujet, que je ne sais rien, que je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, j'en ai aucune idée. Maintenant, soyez très révérencieux. Rappelez-vous simplement où nous tenons. La parole a été lue. Souvenez-vous que je ne peux pas guérir personne et qu'aucun autre homme ne peut guérir personne. Mais votre foi en ce qu'est Christ, c'est ce qui opère la guérison. Maintenant, il se fera connaître ici comme il l'a fait. Et s'il s'identifie comme il l'a fait dans les jours passés, le reconnaîtrez-vous par cela? C'est la seule façon qu'il a dit qu'il s'identifierait lui-même. C'est la seule manière par laquelle il s'est jamais identifié. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici donc maintenant une femme, simplement comme dans Saint Jean 4. Jésus a rencontré une femme au puits. On vient de parler d'elle il y a quelques minutes. Voici un homme et une femme. Je n'ai jamais vu cette femme. Elle a juste levé sa main. Je ne l'ai jamais vue et elle ne m'a jamais vue. Donc, nous sommes totalement étrangers. Elle vient de recevoir une carte de prière et son numéro a été appelé. Êtes-vous? Elle a dit qu'une fois à Amman, dans l'Indiana, j'ai prié pour elle. Mais pour sa vie privée, je ne sais rien à son sujet, je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là ou rien. Bien sûr, il y a des centaines de personnes dans les lignes de prière avec lesquelles j'ai peut-être été dans des réunions et ainsi de suite, comme ça. Mais je veux dire que je sais que Dieu au ciel, c'est cette Bible sur mon cœur, je ne m'en souviendrai jamais que de quelqu'un au loin comme ça, de quelqu'un pour qui on a prié il y a peut-être des années. Amman dans l'Indiana, c'était il y a longtemps, il y a de nombreuses années. Lorsque j'étais à Amman en Indiana, il y a 8 ou 10 ans. Alors maintenant, si le Seigneur le veut, Jésus me révélait pourquoi vous êtes ici maintenant, cela rendrait Saint Jean 4 parfaitement vrai. Quoi qu'il y ait dans votre cœur, alors la parole discerne la pensée qui est dans le cœur, comme Jésus l'a fait pour la femme au puits. Alors croiriez-vous que c'est vrai? Vous le croyez? Est-ce que l'auditeur croirait que c'est vrai? Voici maintenant ma main sur la Bible, que je ne me souviens plus de la femme. Je n'en avais aucune idée. Elle a levé la main aussi. Je ne saurais pas pourquoi elle était là. Elle m'a dit qu'elle m'a vu à Amman, dans l'Indiana. Vous tous seriez peut-être là, pour autant que je sache, je ne sais pas. Juste à la réunion. Mais maintenant que le Seigneur Jésus accorde cela, s'il le veut, je ne dis pas qu'il le fera. Maintenant, je prends tous les esprits ici sous mon contrôle au nom de Jésus-Christ. Maintenant, soyez très respectueux. Si vous n'êtes pas un croyant, je ne vous conseillerais pas de rester dans le bâtiment parce que les maladies vont d'une personne à l'autre. Nous savons cela, les afflictions aussi. Bon nombre d'entre eux ont déjà assisté à des réunions et ont vu ces choses-là arriver. Maintenant, je veux juste vous parler comme notre Seigneur a parlé à cette femme. Maintenant, vous voyez, vous tenez là dans le besoin. Vous êtes probablement chrétienne. Je ne sais pas si vous l'êtes. Il me dira si vous l'êtes. Et alors, je suis un chrétien. Maintenant, ces deux ensemble, un homme et une femme. Et alors, l'Esprit de Dieu ici avec un don pour vous faire savoir de quoi vous lui parlez, ce que vous dites. C'est peut-être financier, c'est peut-être familial. Je n'ai aucune idée, mais peut-être que c'est ce que c'est. Vous saurez si c'est la vérité ou non, s'il la révèle. C'est une tumeur. C'est exact, levez la main. Maintenant, vous y croyez? Maintenant, regardez. Vous voulez que je vous dise où est la tumeur? C'est dans votre gorge. Si c'est vrai, ajustez votre main comme ça. Vous y croyez maintenant? Très bien. Continuez votre route en remerciant simplement le Seigneur que vous croyez cela. Venez, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, je suppose. Madame, nous ne nous connaissons pas, mais Dieu nous connaît tous les deux. Croyez-vous que Dieu puisse me révéler votre problème? Est-ce que ça vous aiderait? Vous amènerait à croire? Soyez très respectueux. Très respectueux. Maintenant, rappelez-vous, il y avait une femme une fois qui n'avait pas reçu de carte de prière, on va dire. Elle est passée à travers, elle a touché le bord de son vêtement. Quand elle l'a fait, Jésus s'est retourné, elle a dit qui m'a touché. Est-ce vrai? Elle avait une perte de sang. Elle a dit en elle-même, si je peux toucher cet homme, je serai guéri. Elle l'a touché. Il a dit, qui m'a touché? Eh bien, même Pierre l'a réprimandé. Il a dit, on aurait dit que tu étais un cas maladie mentale ou quelque chose comme ça. Il a dit, oh bien, tout le monde te touche. Il a dit, oui, mais je me suis affaibli. Je perçois que la vertu est sortie de moi. Il s'est retourné à regarder l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve cette femme. Il lui a dit quel était son problème de perte de sang, qui était guéri. Vous vous souvenez? Maintenant, la Bible dit aujourd'hui que le ministre répond pour nous, qu'il est le souverain sacrificateur maintenant même qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités, pas vrai? Vous le prenez juste lui. Dites, Seigneur Dieu, ce prédicateur ne me connaît pas et laisse-moi toucher ton vêtement. Voudrais-tu parler à travers lui? S'il est le même hier éternellement, il va agir de la même façon. S'il est dans la chair humaine maintenant, agissant, rachetant ses gens. Maintenant, priez maintenant. Croyez de tout votre cœur. Ne doutez pas. Ne doutez rien. Croyez toutes choses. Croyez avec tout ce qui est en vous. Croyez. Maintenant, je veux juste contacter votre esprit, madame, juste vous parler. Croyez-vous que ces choses sont vraies? Vous croyez que le Seigneur Jésus pourrait me révéler pourquoi vous êtes ici? Vous avez aussi une tumeur, c'est vrai. Croyez-vous qu'il puisse me révéler où elle se trouve? C'est dans les glandes féminines. Et dans quelle glande c'est? C'est dans l'utérus, c'est exact. Très bien. Croyez-vous maintenant? Partez et ayez la foi de tout votre cœur. Voici maintenant un homme. Un homme est venu une fois au Seigneur Jésus et son nom était Simon. Maintenant, et il était appelé Pierre. Jésus lui a dit qui il était et d'où il venait et ce qu'il en est. Maintenant, si le Seigneur Jésus peut me révéler pourquoi vous êtes ici, allez-vous croire cela? Vous saurez que cela doit être la vérité, si vous savez si c'est la vérité ou pas. Mais vous croyez que je suis son serviteur? Vous savez? Merci, Monsieur Saint. Merci. Que le Seigneur vous aide maintenant à croire cela de tout votre cœur. C'est cette petite chose ici, j'essayais juste de bien l'enrouler. Maintenant, alors que vous regardez de nouveau par ici, oui, monsieur, vous devriez faire face à une opération pour une rupture, c'est vrai. Aussi une hernie, vous avez une hernie. Vous croyez que je peux vous dire qui vous êtes? Vous le croyez? Vous êtes révélant. Révérend, vous êtes un ministre parce que je vois la chair et votre nom est Wallace. Croyez de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, oh là là, très bien. Ayez la foi maintenant. Ne doutez pas. Ayez simplement la foi. Croyez maintenant. Maintenant, nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Dieu nous connaît tous les deux. Croyez-vous que le Seigneur Dieu peut me dire quelque chose à votre sujet? Pourriez-vous être ici ou quelque chose comme ça? Je suis un peu pressé parce que les gens sont entassés, vous savez. Croyez-vous qu'il puisse me révéler quelque chose qui ne va pas chez vous? Vous le croyez? Et vous savez que cette sensation qui vous a frappé à l'instant ne pouvait pas venir de moi, c'est lui. Ça fait que vous sentez bien, comme la douceur, l'humilité. Et ça, vous avez déjà vu la photo de cette lumière? Eh bien, c'est exactement ce qui est autour de vous en ce moment. Maintenant, la dame s'éloigne de moi, elle souffre. Je la vois, elle est un peu handicapée, elle a de l'arthrite, ça. C'est vrai, si c'est ça, levez la main, c'est ça. Alors, vous avez aussi un problème de thyroïde. Vous souffrez avec la thyroïde, c'est vrai. Et puis, vous avez des problèmes cardiaques, des étouffements venant de votre cœur. Ça aussi, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez d'un autre genre de pays où il y a beaucoup de... Vous venez de très loin. Vous êtes de la Pennsylvanie. C'est vrai, venez ici. Maintenant, rentrez chez vous et soyez guéris. Jésus-Christ vous guérit. Vous guérit. Ayez la foi maintenant. Ne doutez pas. Maintenant, ne bougez pas. Ne bougez pas. Je vous en prie. Juste quelques instants maintenant. Si vous voulez bien m'en donner un de plus, donnez-moi ce cas et nous arrêterons ici. Je vous laisse faire ce cas. Ne bougez pas. Je vous en prie. Je sais que vous retenez très longtemps, mais vous voyez, vous êtes un esprit et je suis juste en contact avec chacun d'entre vous maintenant. Maintenant, ayez la foi. Je suis un inconnu pour vous. Je ne vous connais pas. Christ vous connaît. Il y a un homme qui n'arrête pas d'apparaître. Oh, c'est ça. C'est un homme à la tête grise, assis ici. Il souffre de problèmes au genou. Croyez-vous que Dieu va vous guérir, monsieur, avec ce mal de genou et va vous guérir? Et vous croyez qu'il va vous guérir? L'homme juste derrière le fauteuil roulant là-bas, si vous voulez bien croire, vous souffrez de problèmes au genou. Levez la main. Très bien. Vous avez touché quelque chose, n'est-ce pas? Vous l'avez touché, oui. C'est vrai. Dites en passant à la dame assise à côté de vous, la lumière, femme, me croyez-vous, sœur, pour qu'il sache que ça vient de Dieu? Croyez-vous que je suis son prophète? Est-ce que vous me croyez? Ça rebond là-dessus. Vous souffrez d'une tension artérielle, si c'est exact, levez la main. Très bien, posez vos mains sur lui aussi, parce qu'il ne l'a jamais bien compris. Et puis croyez-vous de tout votre cœur et vous allez tous les deux être guéris. Qu'est-ce qu'ils ont touché? Ici, une dame vient de le saisir. Elle est assise juste là, la tête inclinée. Elle prie. Elle prie pour que le Seigneur la guérisse. Ce qu'elle est, elle souffre assise au bout de la rangée là-bas. Elle a une rupture d'estomac pour laquelle elle prie. Et vous croyez que Dieu va vous guérir, madame? Levez la main. La petite femme aux cheveux foncés qui porte des lunettes, qui priait Dieu de la guérir, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Dieu le sait. Si je suis un inconnu pour vous, achetez la main, madame. C'est vrai, je ne sais rien de vous. Vous savez que c'est vrai, n'est-ce pas? D'accord. Jésus-Christ vous guérit si vous le croyez. Dites, assise juste derrière elle, cette dame assise là, assise juste derrière elle, là-bas. Elle aussi, elle prie. Suivez simplement cette lumière. Oui, vous ne pouvez pas, voyez pas que la lumière est suspendue juste là? Voyez. Maintenant, regardez, la dame a subi une opération. Mais ce qu'elle veut vraiment que Christ fasse pour elle, c'est lui enlever les tumeurs de son bras. Vous croyez maintenant qu'il va le faire? Oui, levez la main. Très bien. Si vous y croyez, vous pouvez l'avoir. Allez, ayez juste la foi et ne doutez pas, croyez. Non, c'est deux hommes différents. Je pensais cet homme, c'est cet homme assis là. Vous croyez, monsieur, vous qui êtes assis ici, vous croyez de tout votre cœur? Vous croyez que Dieu va vous guérir de ces problèmes de prostate? Va vous guérir? Vous avez des problèmes de prostate? Agitez la main si c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, votre foi vous guérit, monsieur. Jésus-Christ vous a guéri. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Ne voyez-vous pas qu'il est ici? Ne le croyez-vous pas? Vous ne croyez pas que c'est lui? Maintenant, attendez une minute. Là, oui, je ne crois pas qu'il ne vous ait rien dit au sujet de vous-même, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'il peut le faire? Vous croyez que je peux le faire par sa grâce, sa puissance? Est-ce que ce sera sa promesse? Vous souffrez d'un problème au cou, vous avez fait une chute, et c'est ce qui a causé cela. C'est vrai, rentrez maintenant, vous allez être rétabli. Que Jésus vous guérit, croyez-vous? Tout le monde croit de tout votre cœur maintenant. Maintenant, combien de croyants y a-t-il ici? Levez la main partout dans le bâtiment, en haut. Très bien, vous croyez maintenant rapidement. Nous sommes vraiment, on a dépensé environ une demi-heure le temps. Faites ceci tout de suite. Jésus a dit, croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Croyez-vous qu'il a promis de faire cela en ce jour? Croyez-vous que c'est le dernier signe que cette Église va avoir maintenant, avant la venue du Seigneur n'arrive? Croyez-vous que nous sommes juste la fin, que toutes les Écritures soient accomplies, prêtes pour la venue du Seigneur? Jésus a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, posez votre main sur quelqu'un à côté de vous. Maintenant, vous êtes un croyant. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, s'il tient sa parole pour faire ceci, il tiendra sa parole pour faire cela aussi. Maintenant, vous priez pour la personne à côté de vous. Il prie pour vous. Vous pouvez ne priez pas pour vous-même. Vous priez pour la personne. Il prie pour vous. Maintenant, inclinons tous la tête pendant que nous prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de voir le Messie ressuscité. 1900 ans de toutes sortes de théologies et de mouvements, mais quand même, dans les ténèbres de tout cela, tu as promis que tu apparaîtrais ici dans les derniers jours, en ce jour de Sodome, et que tu te ferais connaître aux enfants d'Abraham, les appelés, les élus. Et te voilà ce soir, après 1900 ans, aussi vivant ce soir que tu l'étais quand tu as parlé à la femme au puits. C'est Dieu manifesté dans la chair. Maintenant, dans la chair de son épouse, car l'épouse et le mari sont la même chair. Ces deux-là ne font qu'un, et l'Église devient l'épouse tout le temps en croyant la parole, de sorte que la parole et l'Église deviennent le même. La parole dans l'Église fait d'elle l'épouse, le dernier signe, Dieu s'identifiant lui-même, la parole dans l'Église. Ô Dieu! Ces gens qui disent croire ont posé les mains les uns sur les autres. Ils prient, regarde en bas, depuis ta gloire, Seigneur. Regarde, confirme ta parole. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Ô Dieu, que Satan perde son emprise sur leur foi ce soir. Puisse Dieu entrer et leur faire savoir qu'il s'est identifié ici même parmi nous. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici avec nous maintenant. Jésus-Christ ressuscité, identifié, qui se fait connaître. C'est la première fois qu'il fait cela depuis 1900 ans et le voici ce soir. Que Satan perde sa puissance, que son incrédulité se dissipe et que la puissance de Christ ressuscité vienne dans ces gens et guérisse chacun d'eux. Et nous chassons Satan au nom de Jésus-Christ qu'il s'éloigne de ces gens en immédiatement afin qu'ils soient tous en bonne santé pendant qu'ils prient les uns pour les autres avec leurs mains posées les uns sur les autres. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Maintenant, gardez vos mains les uns sur les autres. Croyez maintenant. Gardez la tête baissée, les yeux fermés. Croyez, peu importe où vous en êtes, ce qui ne va pas chez vous, cela n'a rien à voir. Si Dieu, après 1900 ans, se tient ici même, s'identifiant lui-même, ressuscité d'entre les morts, et il prend des gens mortels et se présente lui-même, le Messie, dans tous les âges. Le même Messie qui fait la même chose par le même signe. Il est ressuscité des morts. Il a promis qu'il le ferait juste avant sa seconde venue et la destruction du monde des gens des nations. Le voici. Nous approfondirons la question cette semaine au fur et à mesure que nous avancerons. Mais vous, pourquoi souffrir le reste de la semaine alors que vous pouvez être guéri maintenant même? Quelqu'un a mis la main sur vous. Vous, un croyant a ses mains sur vous. Il a dit ses paroles. Ses signes accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils guériront. Ils seront guéris. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Si vous y croyez de tout votre cœur et que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, celui qui vous jugera au tribunal du jugement est ici ce soir sous la forme et la personne du Saint-Esprit et se fait connaître par son même signe biblique qu'il a promis de vous montrer et qu'il était vivant, le voici. Si vous croyez cela de tout votre cœur et que vous l'acceptez comme votre guérisseur, je vous commande par son nom et à travers son nom de vous tenir debout maintenant et d'accepter votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous, si vous y croyez, levez-vous. C'est très bien. Les gens ont quitté les lits, se sont levés des fauteuils roulants, et c'est merveilleux. Maintenant, donnez-lui simplement la louange. Tout le monde, levez la main. C'est maintenant le moment de crier, de lui donner la louange. Croyez-vous, il y a des gens qui ont laissé leurs fauteuils roulants, sont sortis de leur lit, et partout, ils se sont levés. Louons-le. Tout le monde, levez la main et louez-le.